7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi et bien au-delà. Aujourd'hui, choisir ses études, choisir son métier, quel poids des parents. On le sait tous, les parents cherchent consciemment ou inconsciemment à influencer les choix de leurs enfants pour leurs études, pour leur métier. Tu seras comptable ma fille? Non, je veux être styliste. Alors, est-ce qu'il faut s'affranchir des pressions familiales? Quel conflit de loyauté aussi ça pose avec sa famille, alors que les parents sont souvent inquiets des risques de chômage pour leurs enfants. Les voisins, si vous décevez vos parents parce que vous ne faites pas les études qu'ils souhaitent ou au contraire que vous avez été contraint de choisir une voie qui ne vous plaît pas, eh bien appelez-nous surtout tout de suite pour témoigner, pour discuter avec nos invités au 33 1 84 22 71 71. C'est également le numéro de téléphone WhatsApp où vous pouvez nous envoyer des messages. Je vous présente nos invités. Isabelle Servant, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez « Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie ?» C'est publié chez Erol. Vous avez fondé l'association École du Monde, acteurs en éducation. Vous avez un parcours qui n'a pas été linéaire. Vous avez été enseignante de l'éducation nationale. Vous avez aussi enseigné le français aux États-Unis, à l'université de Stanford. Et vous m'avez confié, là, quelques minutes avant qu'on démarre l'émission, que vous aussi, vous avez déçu vos parents.
Et oui, je serais bien à même. Mais parce que, en fait, il y a eu une influence au niveau de mes études. Mon père, qui était enseignant, voyait pour moi des études en gestion et travaillait en tant qu'administratrice dans un lycée. Il trouvait ça très sécuritaire. En fait, ce qui lui importait, c'est cette sécurité. J'ai fait ça. Je suis devenue professeure de gestion et à un moment, je me suis affranchie de tout ça. J'ai changé ma vie plusieurs fois en cours de route pour trouver vraiment ce qui était le plus important pour moi. J'ai vraiment cette notion qu'une vie est précieuse parce qu'elle est unique et puis elle est courte en temps.
Enfin, elle est courte. Alors maintenant, il faut cotiser 47 ans, donc on peut avoir au moins 4 vies professionnelles.
Mais plein, hein. Si c'est pour mon témoignage, j'en ai encore plus que ça pour tout vous dire. Mais en tout cas, ça m'a pris du temps et c'est vrai que ce chemin est intéressant à partager et c'est ce qu'on va dire peut-être aujourd'hui.
Bien sûr, et vous allez dialoguer avec nos auditeurs. On est en ligne également avec Geneviève Ngo-John. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère d'orientation dans un lycée dans la région du littoral au Cameroun. Vous aussi, vous avez déçu vos parents, Geneviève ?
Mon père, j'ai déçu mon père, je crois, mais ma mère, j'ai suivi son choix. Malheureusement,
conseillère.
Pour notre thématique d'aujourd'hui, parce que le choix du parent a influencé sur mon orientation.
Et votre papa, il voulait que vous fassiez quoi, Geneviève ?
Mon papa, il a fait droit, donc voilà.
Il voulait que vous soyez avocate, c'est ça ?
Voilà.
Bon, bien sûr, vous restez en ligne avec nous pour une bonne partie de l'émission, Geneviève Ngo-John. Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Allez, je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Lilia, qui est au Canada, elle dit « Voilà, après mon bac, moi je voulais étudier la littérature française. Mes parents et ma famille m'ont poussé à préparer un diplôme d'ingénieur. Comme j'aimais aussi les matières scientifiques, j'ai cédé et j'ai fini par devenir ingénieur. Maintenant, je regrette tout ça, car je n'ai pas réalisé mon rêve. Vers 40 ans, je suis retournée à l'université, ce qui se fait beaucoup au Canada. Hein.
Oui.
Et je suis aujourd'hui en dernière année de licence en traduction. Et c'est que du bonheur. Voilà. Bon, bravo Lilia. Dimo est à Libreville, au Gabon. J'ai une licence de lettres et un master en géopolitique. Mes parents ne m'ont pas empêché de faire ces études, mais ensuite, ils m'ont mis la pression pour que je rentre dans la police, ce que je ne voulais pas. Pourtant, je remplissais les conditions, la taille, le niveau d'instruction, la connaissance aussi de la maison. J'ai refusé, mais mon père ne le digère pas, donc je crois que son père est dans la police. Mais avec mon master, moi je veux l'exploiter, mais dans un métier, dans le civil. Alors bien sûr, appelez-nous maintenant en direct pour dialoguer avec nos invités, surtout si vous êtes dans les affres des choix ou avec un conflit familial quant à votre orientation. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Et tout de suite, message d'un Congolais posté sur WhatsApp.
Bonjour 7 milliards de voisins. C'est Olivier Kisobe depuis Bukavu, en République démocratique du Congo. Mon père voulait tellement que je fasse l'informatique ou bien la médecine. Il disait que c'est là où je pouvais trouver du travail si un RDC. Sauf que moi, je voulais pas tellement faire ça. Je voulais faire quelque chose de nouveau. Et je bravais sa décision et je suis parti en Ouganda faire les génies pétrole. Parce que je croyais que je pouvais avoir un job si l'exploitation du gaz commençait dans les lacs Kivu. C'est pétrole et gaz. Mais quand je suis rentré après mes études universitaires, j'ai remarqué qu'il n'était pas vraiment d'accord avec ce que j'avais fait. Et il me disait, toi, tu es responsable, tu ne m'as pas compris. Maintenant, tu vois, tu n'as pas de travail, tu vois maintenant. Il me disait tout le temps ça. On dirait qu'il voulait me culpabiliser. Alors, comment on pourrait faire pour essayer un peu de régler ces problèmes-là? On n'arrive pas à se parler. Je voudrais qu'on commence à se parler comme on le faisait auparavant. Merci.
Ouais, un vrai problème hein, quand même pour les relations familiales. Je vais vous laisser écouter un autre témoignage et puis bien sûr après on a envie d'entendre vos analyses. Écoutez le témoignage de Quentin, 24 ans. Il vient lui de Dijon en Bourgogne. Vous voyez que ça concerne tous les pays du monde. Ses parents ont financé toutes ses études pour qu'il ne soit pas obligé de travailler parallèlement ou à s'endetter. Et il a raconté à Charlie Dupio ses années d'études à cause d'une erreur d'aiguillage.
Moi, j'ai toujours eu une passion pour les matières un peu histoire-géo, comprendre le monde, l'économie même de manière générale. Et je voulais faire un bac ES, même si avec la réforme, ça n'existera plus, mais je voulais faire un bac ES.
Donc économique et sociale.
Voilà. Et mes parents m'ont dit, bah non, parce que t'es encore jeune et avec un bac ES, ça n'ouvre pas forcément toutes les portes. Par exemple, médecine. Donc tu feras S et si t'as envie de faire de l'économie, bah, t'en feras après ton bac S, mais pas maintenant. Donc tu feras ton bac S et puis on en rediscutera plus tard, quoi.
Donc un bac scientifique.
Exactement, voilà. J'avais des bonnes notes, j'aimais beaucoup la SVT, sciences de la vie et de la terre. Mais après, j'étais pas hyper passionné par les cours, quoi.
Mais vous avez quand même écouté vos parents à ce moment-là.
Bah, pas le choix. C'est eux qui décident un peu quand même de ce qu'il faut faire dans notre vie. Et puis je me dis, bon, s'ils me disent ça, ils ont peut-être raison, je suis peut-être encore un peu jeune. Et donc au moment de choisir ce qu'on veut faire, on va dire, en décembre de la terminale, j'ai dit à mes parents, bon, bah voilà, il y a deux voies vers lesquelles je souhaiterais m'orienter, soit du journalisme, soit une licence plutôt orientée droit, sciences politiques, enfin voilà. Toujours ce truc-là qui revient un peu quand même aujourd'hui dans mes passions. Et mes parents m'ont dit, bah non, parce qu'on sait qu'au lycée, tu ne travaillais pas beaucoup, même si tu avais des bonnes notes, donc tu vas pas aller à la fac, là où tu as 6 heures de cours par semaine, bon, c'est comme ça qu'ils me le disaient, et où tu vas rien faire. Donc, pour garder un cadre, tu feras prépa. Voilà. Donc, on a sorti le dépliant des prépas, ils m'ont dit, tu choisis celle que tu veux. Prépa mathématiques, scientifiques, j'avais sûrement pas envie. Et j'ai longtemps hésité entre une prépa éco et une prépa littéraire tendance économique qui s'appelle BL.
Vous aviez quand même le choix sur le dépliant de la prépa.
Oui, on peut appeler ça un choix, oui, voilà. Mais
qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos parents, par rapport à ça?
Par exemple, pour le journalisme, j'avais dit à mes parents, voilà, moi qui aime découvrir le monde, le comprendre, etc. Et ils m'ont dit, écoute Thomas, on va pas te payer 5 ans d'études pour te retrouver au chômage. J'ai choisi la prépa éco, peut-être avec un peu de regret, parce que je n'aime pas les maths, et avec 14 heures de maths par semaine, bah c'est compliqué quand on n'aime pas les maths. Puis après une prépa éco, on n'a pas 150 000 choix, donc on fait une école de commerce. J'étais à Strasbourg, et en fait en école de commerce, bon là je pense que la faute est un peu venue de ma part. J'aimais beaucoup la politique, et du coup je me suis dit, bon, comment travailler en politique? Ben peut-être en faisant de la communication, du marketing, donc j'ai choisi ça. Et c'était un peu idiot, mais du coup j'ai continué à évoluer dans le monde du marketing et de la com.
Qu'est-ce qu'ils font, vos parents?
Mon père, il est ingénieur informatique et ma mère, elle est chargée de clientèle dans une banque. Il y a la pression de la réussite du fait de, notamment, d'où vient ma maman. Mes grands-parents sont arrivés d'Espagne. Ma grand-mère ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Et ma mère, qui n'a entre guillemets que le bac, s'en est plutôt bien sortie. Donc il y a un peu cette ascension sociale où il faut que tu réussisses, quoi. Et je sais que ma mère est très fière, en tout cas, du parcours que j'ai jusqu'à maintenant. Même quand je décrochais un stage, on parle d'un stage, elle pleurait au téléphone en se disant « Mon fils va travailler là-bas, quoi. Il y avait ce truc à Paris, machin. » Et donc là, je suis sur le marché du travail dans la communication. Je travaille dans le secteur des médias.
Depuis combien de temps vous travaillez, en fait?
Je travaille depuis 3 mois. C'est juste la confirmation que je pense ne pas être fait pour la communication. Je change la vie de qui, quoi? J'ai pas l'impression d'être utile à quelqu'un. On se prend un mur en pleine face et on a 24 ans et on se dit maintenant je fais quoi? Là j'en suis à revenir à rebondir, à me dire comment est-ce que je peux concilier ce que je voulais faire directement après le bac avec des compétences ou en tout cas des choses que j'ai apprises jusqu'à maintenant. Et du coup, je réfléchis pour faire un troisième master. Voilà. En management et marketing de l'énergie, soit en affaires internationales. Là, mes parents ont compris. Quand je leur en ai parlé, mes parents m'ont dit « Écoute, Thomas, vas-y, fonce. » Donc, je pense qu'ils ont compris que voilà, fallait peut-être à un moment donné pouvoir soutenir les enfants dans ce qu'ils ont envie de faire et pas forcément imposer leur choix, quoi.
Isabelle Servent, voilà comment on peut en arriver à accumuler quand même pas mal d'années d'études. Hein.
Oui. et le problème, c'est que, enfin, dans le témoignage de ce jeune homme, il a osé en fait reprendre ses études et corriger son parcours plusieurs fois, ce que peu de gens finalement ont le courage de faire, parce que ça demande aussi des moyens financiers, ça demande du temps, ça demande une grosse remise en question personnelle, et c'est pas évident. Donc on sent qu'il est en train d'avancer vers son projet de cœur, en train de se révéler peu à peu, mais finalement c'est quand même une minorité de personnes qui peuvent remettre en question leur chemin comme ça.
Oui. Alors prendre le risque de décevoir ses parents tout de suite ou bien réparer entre guillemets son parcours plus tardivement à un moment où forcément il y aura beaucoup moins de conflits.
C'est ce que j'ai fait et je crois que c'est ce qu'Aminata presque a fait. Mais je crois qu'ici, vraiment, ce qui est soulevé, c'est la différence de besoin et d'attente.
Ouais.
On entend que les parents, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité pour leur enfant, qui est un travail stable, ou alors de la fierté, parce que c'est quelque part leur réussite personnelle. Mmh. Alors qu'on entend bien que de la part des deux personnes qui ont témoigné, et des jeunes de manière générale, ils ont besoin de se sentir utiles. Ils ont besoin de donner sens à leur vie, de donner sens à leur carrière professionnelle. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. On l'entend, c'est très altruiste, c'est très humaniste. Ils ont besoin de contribuer au monde. Ils veulent faire quelque chose qui fait du sens pour eux. Et les parents, ce qu'ils oublient très souvent, c'est que quand ils étaient à leur âge, c'était la même chose. Et c'est intéressant avec l'âge où on oublie ce que c'est que...
Et la rupture générationnelle est peut-être encore plus importante aujourd'hui d'ailleurs. Nous sommes en ligne avec une auditrice qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Aminata.
Bonjour.
Aminata, alors je vais résumer très rapidement votre parcours parce que votre maman voulait que vous fassiez un bac pro. Finalement, vous êtes allée à la fac, vous avez eu une licence d'assistante commerciale. Ça a toujours été très tumultueux entre vous et votre mère, Aminata ?
Oui, toujours. Les études, c'était très important pour elle. Finalement, elle voulait que je fasse un parcours commercial, donc vente, pour que je devienne une grande commerciale à l'africaine, quoi. Mmh. Et du coup, je me suis orientée vers un bac pro secrétariat. Il a complètement, vraiment déstabilisé. Puis bon, par la suite, il a fallu que je prouve que je peux réussir par moi-même, en faisant mon parcours. Du coup, j'avais la pression constamment et c'était assez fatigant psychologiquement en même temps. Bon, j'ai eu mon bac, donc j'ai pu prouver que je pouvais y arriver.
Mais en fait, vous avez fait toute votre scolarité en France, hein, vous êtes en région parisienne, mais Aminata, alors votre mère, donc vous êtes issue d'une grande fratrie, hein, je crois que vous avez 10 enfants dans la famille, c'est ça, hein.
C'est ça.
Voilà, et vos parents, et vos parents sont, oui, donc pas si bien placés que ça, hein, la troisième, on a pas mal la pression encore. Vos parents sont originaires du Mali, et donc vous le disiez, votre mère rêvait pour vous d'un destin de grande commerçante à l'africaine qui réussit très bien financièrement, mais vous, à quoi vous rêviez, Aminata, dans le fond?
À l'époque, je rêvais d'indépendance, d'avoir foi en mes choix, quoi. Et même si je me trompais, au moins d'avoir essayé. Et je ne voulais pas qu'on m'impose quoi que ce soit, quoi.
Et aujourd'hui, vous avez 36 ans, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vous êtes réconciliée avec votre parcours professionnel? Vous avez des relations plus apaisées avec votre mère sur cette question-là?
Oui, enfin, j'ai eu une relation avec ma mère... Les relations avec ma mère aujourd'hui sont impeccables, je dirais. Après, au niveau parcours professionnel, j'ai toujours réussi tout ce que je faisais. J'ai eu un coup de chance, je dirais. Et aujourd'hui, je tends vers une réorientation, finalement. Toujours pas dans le commerce.
Ah, toujours pas dans le commerce. Parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes assistante de direction, non?
Non, je suis gestionnaire.
Gestionnaire, d'accord. Et vers quoi vous voulez vous réorienter à 36 ans?
Je me réoriente vers la psychothérapie.
Ah d'accord, ouais, alors là, complètement autre chose. Et comment ça se passe pour vos petits frères et sœurs?
Alors, mes frères et sœurs, ils ont encore un petit peu la pression de mes parents, même si je suis derrière pour quelquefois les soutenir ou rappeler à l'ordre ma mère, j'irais le dire, mais bon. Mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu la pression, mais elle est plus flexible par rapport à nous. Peut-être avec l'âge, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même une pression de devoir faire quelque chose et réussir, quelque chose de bien, quoi, qui fasse bien, quoi.
Oui, donc il faudra attendre le dernier de la fratrie, où là, ça sera « fais ce que tu veux, mon fils ou ma fille », non ? Au fil des frères et sœurs. Merci Aminata de nous avoir appelés. Bravo aussi pour ce courage-là, parce que c'est pas simple. On va donner la parole à notre invitée Geneviève Ngojohn, qui est conseillère d'orientation au Cameroun. Tous les témoignages que vous avez entendus, il y en a encore plein d'autres qui arrivent au standard, c'est incroyable, Geneviève. J'imagine que rien ne vous surprend de là où vous êtes, conseillère d'orientation dans un lycée du littoral au Cameroun.
Oui, en fait, c'est pratiquement les mêmes choses avec quelques différences près. Les différences près vont dans le sens où beaucoup d'élèves aujourd'hui ne rêvent plus. Parce que quand vous voyez un témoignage qui vous dit que voilà, le rêve, je voudrais faire tel, et après le parent te dit, tu vas faire ceci. En fait, l'enfant a un souci majeur, je parle de mon vécu ici, c'est qu'il veut avoir un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de la famille. Donc vous comprenez que quand il faudra donc choisir, si ce que le parent propose fait sens et que bien évidemment c'est le parent qui va payer les études, il sera obligé de le suivre. Donc on se trouve dans une situation où très peu d'enfants réussissent à imposer leur choix aux parents, parce que le parent, c'est justement cette figure d'autorité. Ça veut dire que le parent a plus d'expérience que l'enfant, le parent connaît plus que l'enfant. Donc si le parent dit que cette filière est bonne, alors l'enfant sera obligé de le suivre.
Et Geneviève Ngojohn, c'est un phénomène que vous retrouvez dans tous les milieux sociaux?
Un peu plus en milieu rural, parce que je suis dans une zone rurale, un peu plus, mais bien évidemment, ça se trouve aussi dans les zones urbaines, étant donné que voilà, la situation du chômage est applicable dans pratiquement toutes les zones. Il y a un niveau vraiment assez important de chômage qui ne s'applique pas seulement au Cameroun, ça s'applique dans tous les autres pays. Donc le chômage fait en sorte que l'enfant a cette pression, il a peur. Si c'est que je choisis une filière et qu'au final je n'ai pas de travail, vous comprenez que ce sera un peu difficile. D'où maintenant une autre variable qui entre, beaucoup se lancent dans des concours administratifs. Ça veut dire qu'ils vont le faire, pas parce qu'ils ont rêvé le faire, mais parce que voilà, on sait qu'il y a une sécurité d'emploi qui vient à la fin de la formation.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que vous nous disiez, finalement, Isabelle Servant, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de pression des parents, la sécurité et la fierté.
Et la fierté. Et je pense que là où les parents, de ce que j'entends, vraiment parfois se trompent, j'aime beaucoup cette citation de Steve Jobs qui dit « La seule façon de faire du très bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. » Et en fait, pour que l'enfant réussisse, il faut qu'il aime profondément, parce que c'est là où il va renouveler ses efforts, se former, chercher à s'améliorer, s'appuyer sur ses points forts, sur ses atouts, parce qu'il est connecté à sa propre richesse professionnelle, il va donner le meilleur de lui-même, et c'est là où il va le réussir. Est-ce qu'on peut vraiment concevoir que quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'aime pas va vraiment réussir, même au niveau professionnel? On n'a pas envie de se donner dans quelque chose que l'on n'aime pas.
Geneviève avait cette phrase terrible de dire les élèves qu'elle reçoit en tant que conseillère d'orientation, les élèves ne rêvent plus aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est la même chose pour les jeunes que vous voyez en France? Et est-ce que vous avez constaté la même chose auprès des jeunes, puisque vous avez enseigné aux États-Unis également?
Alors, rêver, effectivement,
c'est un luxe.
C'est pas un luxe, mais actuellement, il y a quand même dans la nouvelle génération un attrait très important pour gagner beaucoup d'argent ou être célèbre et être connu. En tout cas, ici, chez nous. Donc là, il est besoin de redonner du sens. C'est-à-dire, tu es unique, tu as des talents, tu as des potentiels, tu as tes atouts. Ta richesse, c'est vraiment d'être unique, connecte-toi à qui tu es. Et après, comment tu veux contribuer au collectif? Travailler, finalement, c'est apporter qui l'on est, cette richesse personnelle, et la mettre au service du collectif. Et quand on connecte les deux, ses atouts, ses forces, ce que l'on aime, enfin, ces trois, nos points forts, nos atouts, ce que l'on aime et ce qui fait sens, comment je vais contribuer à la société. Et c'est ça, rêver quelque part, c'est finalement qu'est-ce que j'apporte, quelle est la trace que je laisse, comment je me sens utile. Alors là, on a les trois ingrédients qui font que la réussite peut vraiment émerger.
Ouais. Mais alors évidemment, quand même, l'orientation passe d'abord aussi par la réussite scolaire. Vous, dans votre lycée Geneviève Ngojohn, comment vous dialoguez avec les élèves? Est-ce que vous partez des compétences, des capacités scolaires? Comment vous travaillez avec eux?
Bon, voilà, déjà, on part avec les envies des élèves. Et bien évidemment, quand un élève vient dans mon bureau, il y a déjà sa fiche avec le niveau scolaire, la classe, les difficultés qu'il rencontre et bien évidemment ses aspirations. Mais vous devez savoir qu'à notre niveau, il y a des paliers d'orientation. Ça veut dire que pour aller peut-être en classe supérieure pour faire telle lettre et après aller peut-être faire telle série. Mais aujourd'hui, l'accent est plus marqué sur après le bac, parce que prendre la série littéraire ou la série scientifique, il y en a beaucoup qui ne partent pas en série littéraire parce qu'ils se disent, ça c'est la conception profane, que la filière littéraire ou bien la A comme on dit chez nous, n'offre pas suffisamment d'offres d'emploi, n'offre pas suffisamment de professions. Par contre, les scientifiques, on est sûr qu'avec un probatoire C et un baccalauréat C, alors on peut entrer en faculté de médecine, on peut faire l'ingénierie. Donc vous allez trouver quelqu'un qui n'est pas très fort en mathématiques.
Oui, mais c'est aussi le discours politique qu'on tient beaucoup quand même en Afrique, et avec raison, c'est qu'on est sur un continent qui manque cruellement de techniciens, d'ingénieurs et de compétences techniques et scientifiques.
Bon, ça veut dire que en fait, c'est la population donc qui va selon ce courant-là. Mais moi, ce que je vous dis véritablement, c'est que les classes scientifiques sont plus bondées que, par exemple, les littéraires.
Ah oui.
À un moment, mais après, justement, le blocage vient parce que c'est un peu difficile. Vous allez trouver une personne qui a choisi, vous allez trouver un enfant qui a choisi la série scientifique, mais qui n'avait pas suffisamment les aptitudes et les compétences pour réussir ces matières scientifiques-là.
Ben oui.
Et vous trouvez donc l'échec, parce que avoir deux PC, c'est une chose. Maintenant, composer le probatoire, si vous n'êtes pas suffisamment fort et si vous ne travaillez pas véritablement que sur la mathématique, physique, chimie, vous êtes bloqué.
Alors, quelles seraient les solutions à vos yeux? Qu'il y ait un meilleur dialogue entre les familles, l'établissement scolaire, les jeunes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
En fait, je dirais que on devrait avoir vraiment plus de dialogue avec les parents et les enfants. À mon niveau, je le fais. Et l'établissement suit mon avis, parce que quand un établissement est doté d'une conseillère ou d'un conseiller d'orientation, lorsqu'il va recueillir les avis d'orientation et lorsqu'il administre les tests pour pouvoir déceler les aptitudes des enfants, il propose un avis. C'est un avis d'orientation. On ne décide pas. Maintenant, si l'enfant est d'accord avec la famille, alors le conseiller d'orientation donne cela au conseil de classe. Mais maintenant, si le parent ne veut pas, malgré les résultats du test, vous comprenez qu'on ne pourra pas faire autrement. On va donc donner le choix de l'enfant. Donc un enfant, pour me résumer, qui a fait un test, et le test a montré qu'il avait des aptitudes littéraires, mais lui voulant faire la mathématique ou les séries scientifiques, et que le parent vienne à l'établissement dire que moi je voudrais que mon enfant fasse la série scientifique, l'établissement va le mettre en série scientifique.
C'est ça.
Parce que aujourd'hui...
Vous avez la pression des familles, c'est clair.
Voilà, il y a la pression des familles, et surtout, on voudra aussi mettre en avant le facteur motivation. Parce que même si un enfant n'a pas, par exemple, de bonnes compétences, il va travailler, on se dit donc avec la motivation, parce que cette citation qui dit que le travail bat le talent lorsque le talent ne travaille pas. Donc, on se dit que si l'enfant est motivé, qu'il veut vraiment réussir, qu'il met tout, il va le faire. Donc, et c'est à ce moment-là que voilà l'établissement.
Aujourd'hui, vous diriez, Geneviève Ngojohn, que c'est vraiment le principal motif de conflit dans les familles à l'heure actuelle, de conflit intergénérationnel?
Non, je ne dirais pas que c'est l'unique conflit. quand vous posez une question comme ça, il faudrait que on se situe à quel niveau? Est-ce que c'est dans une zone, est-ce que c'est en général ou bien est-ce que c'est dans une zone particulière?
Non, mais où vous avez d'un côté des jeunes qui disent « Moi, j'ai envie de me réaliser personnellement, de réaliser mon destin. J'ai des rêves qui peut-être ne correspondent pas forcément à ce qui est réaliste, réalisable. Oui. » Et puis des parents qui disent « Mais tu es face à un principe de réalité, point barre. »
Donc, quand vous parliez de conflit, est-ce que c'est par rapport à la thématique? Parce que entre autres, on va vous dire qu'il y a les fréquentations, il y a le comportement, il y a etc. Mais si c'est qu'on se rapporte juste à notre thématique aujourd'hui, c'est un véritable problème parce que les parents, comme je le disais, ont plus d'expérience puisqu'ils sont nos aînés.
Oui.
Et donc, il faudrait prendre leur parole pour argent comptant.
Oui.
Je vais vous expliquer.
Ceci dit, attendez, Isabelle Servent, il n'y a pas cette notion d'autorité peut-être aussi prononcée que sur le continent africain en France. Néanmoins, le conflit, il est réel aussi, Isabelle Servent.
Oui, ce que j'entendais, en fait, c'est que on évalue souvent les enfants via le prisme scolaire. C'est-à-dire, c'est à travers ce qui a été étudié à l'école qu'on dit t'es bon ou t'es pas bon dans telle matière ou telle matière. Mais le prisme scolaire est très uniforme et ne valorise principalement que les intelligences logiques, mathématiques, les sciences ou l'expression linguistique. C'est très 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 limité en termes d'évaluation d'intelligence. Donc ce que j'entendais dans le débat, c'est qu'il y a le prisme scolaire et les résultats qui oriente en fait de manière générale, il y a les rêves des enfants. Ce qu'on oublie peut-être, le troisième élément qui pourrait être pris en considération, c'est finalement quels sont les points forts, la richesse de chacun.
Dans la personnalité.
Dans la personnalité. Moi, je sais que j'ai nombre de fois fait cet exercice, ne serait-ce que demander aux jeunes ne serait-ce que quelles qualités ils se donnent. Eh bien, ils n'arrivent pas à s'en donner.
C'est difficile.
Et les parents... Bah si, je vous assure, je vous donne une liste et vous trouverez facilement à vous entourer.
Oui, quand on est adulte, oui, mais
quand on
a 18 ans.
Non, c'est très facile. Eux, spontanément, ils ne le se disent pas parce qu'on ne les valorise pas. C'est quelque chose, il y a de la pudeur. On ne reconnaît pas les points forts. On ne peut pas dire, ah tiens, t'es bon sur ça.
Oui.
Ah, tu es persévérant. Ah, tu es créatif. Ah, tu es... Et pourtant, c'est la richesse de chacun.
Geneviève Ngojohn, je sais que vous allez reprendre la parole une dernière fois et après, je sais qu'il y a les lycéens qui vous attendent là pour avoir vos consultations d'orientation. Allez-y, Geneviève.
Je voulais réagir voilà, à ce que Isabelle a dit, parlant de l'évaluation des enfants selon le prisme. Et voilà, je dirais aussi que bon, c'est un niveau général et national. Pourquoi? Si par exemple on est dans un pays qui est en train de vouloir faire ses marques, ça veut dire que qui voudrait sortir, qui voudrait émerger, vous comprenez qu'on ne va pas prendre en compte si un enfant vous dit que je veux faire la danse. Moi, je vous prends un exemple vraiment simple. Je reçois un enfant qui me dit que lui, il veut faire dans la restauration, donc la cuisine. Mais ses camarades lui disent que voilà, la cuisine, encore que c'est un homme, vraiment, ça c'est un métier de femme. Et il a cette impression-là que la cuisine n'est pas un bon secteur d'activité.
Oui, il y a toute la représentation des métiers aussi, hein, qui compte beaucoup et qui freine les jeunes dans leurs aspirations réelles.
Après, il faut dire que parfois, il y a du fantasme aussi. Hein. Chez nous, ici, on a des...
Alors,
fois,
la cuisine, ça a changé l'image. Hein. Depuis Top Chef, là, c'est... ça...
Sauf qu'on oublie quand même, parce qu'il y en a qui veulent effectivement aller en cuisine. Ils oublient, parce qu'on le voit un tout petit peu à Top Chef, mais peut-être pas suffisamment, que c'est un métier très, très dur. En fait, quand vous faites votre apprentissage, les chefs vous crient dessus. C'est un peu l'armée. Et je ne suis pas sûre que toutes les personnalités aient envie de passer via ce parcours.
Geneviève Ngojohn...
Le problème, c'est que... Emmanuel, s'il te plaît, quelques minutes.
Oui,
je voulais justement
sûr.
Dire que vous parlez à une famille. La maman est agricultrice. Quand je dis agriculture, c'est que vraiment, elle a un petit champ. Le papa, il est planteur. Lui aussi, il se lève le matin à 5h et tout. Quand son enfant va lui dire que voilà, je vais faire la cuisine et que lui se dise la cuisine que ma femme fait ici, c'est ce que mon enfant va faire alors que quand on parle de ministre, on parle d'ingénieur, on parle de médecin et tout, vous comprenez que le choix est vite fait.
Bien sûr.
Autre enfant qui vous dit que je vais faire peut-être art du spectacle, et si un parent n'est pas suffisamment éduqué, parce que moi, j'ai un peu suivi dans les interventions des personnes qui disaient que bon, j'ai fait peut-être
peut-être assistante de direction et après j'ai changé et tout. Mais pour changer d'orientation, il faudra avoir un niveau d'éducation un peu élevé. Parce que ceux qui n'ont pas atteint un niveau d'éducation, ça veut dire que bac, licence, pro, master, ils vont se contenter d'être manœuvre et de faire ce qu'on veut. Ça, c'est d'une chose. Maintenant, deux choses. Pour celui qui veut justement faire art du spectacle. Art du spectacle, chez nous ici, c'est voilà, soit comédien, soit danseur, soit... C'est encore un peu difficile parce que nous, on a cette vision-là selon laquelle c'est les ministres, c'est les médecins qui ont plus d'argent et bien évidemment l'armée parce qu'il y a cette sécurité-là. Si vous refusez donc de suivre le choix des parents, le parent peut lever les mains et dire « Ok, moi, tu te débrouilles, moi, je voulais que tu fasses tel et si tu ne le fais je ne vais pas payer tes
études. » La pression financière, bien sûr. Merci beaucoup Geneviève Ngojohn d'avoir été en ligne avec nous. On vous laisse retourner à tous vos rendez-vous programmés avec les élèves. Merci, vous êtes conseillère d'orientation dans un lycée du littoral au Cameroun. Merci d'avoir été au téléphone avec nous. J'en profite pour vous lire quelques messages. Emmanuel à Cayenne, en Guyane, vous êtes très nombreux là, vous nous adressez des messages. Il a 34 ans, il nous dit qu'il est fils de prof. Mon père voulait que je fasse un diplôme de commerce ou une école ou un BTS, une école de commerce ou un BTS. Moi, je voulais être prof de PS, donc éducation physique. Je me suis inscrite contre leur avis en STAPS, c'est-à-dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Salif aussi à Bamako, au Mali, il nous dit « Je remercie du fond du cœur mes parents du soutien qu'ils m'ont accordé et de mes choix qu'ils ont respectés. » Alors lui, ça s'est plutôt bien passé. Dès mon bac, je savais que je voulais étudier l'histoire. Aujourd'hui, je suis en Master 1, Histoire et Géographie, pour enseigner, tout simplement enseigner. Voilà. Bravo, et c'est pas forcément ça pose pas forcément un problème que de devenir enseignant. Alors pour les fils de profs, c'est compliqué. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, vos belles serments, parce que soit ils veulent absolument que leurs enfants soient profs parce qu'ils sont très fiers de ce métier, soit au contraire ils se disent oh là là, c'est une catastrophe le métier d'enseignant. Il n'est pas question que tu deviennes prof. Tu vas faire une école de commerce, tu vas bien gagner ta vie, etc.
Donc c'était mon cas. mon père était professeur des écoles, instituteur, et moi je voulais être prof en fait à la base, et il voulait absolument pas ça. Pour moi, il trouvait que c'était un métier très dur, même s'il était passionné. Et il m'a encouragée à travailler dans un lycée, mais dans l'administration.
Je vous lis aussi le message de Mohamed qui poste de Bamako. « Mon père voulait que je choisisse la série biologie au lycée pour être médecin, mais j'étais pas bon. J'en ai parlé à mon conseiller d'orientation qui a réussi à le faire changer d'avis. J'ai ainsi pu choisir la filière de mon choix, devenir ingénieur en télécommunication. Ici, au Mali, nous dit Mohamed, les parents exigent trop souvent des enfants qu'ils suivent leur pas ou qu'ils suivent une filière de leur choix. Il faut avoir la force et assez de courage pour suivre sa propre voie. Mais ça n'est pas simple et tout l'intérêt aussi, d'où l'intérêt du métier de conseillère d'orientation. Voilà, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et bien évidemment vous pouvez dialoguer avec Isabelle Servant qui va essayer de vous donner des conseils pour mieux réaliser vos rêves et savoir aussi pourquoi vous êtes fait.
Mes excuses, grande dame. Inversons la logique.
Logique est en les jeux.
Trop peu de mascarade.
Logique est en les jeux.
Et nos rêves en plastique. Comme un écho logique au-delà de mes mots. Emporté par l'amertume, logique est en écho. Nos énergies fossiles font monter ta colère. C'est peut-être un peu facile, mais je commencerai par vous faire mes excuses, grande dame.
Logique est en les jeux.
Inversons la logique.
Logique est en les jeux.
Trop pour nos mascarades.
Logique est en les jeux.
Et nos rêves en plastique.
Logique est en les jeux.
Quand même, surtout la zizanie dans ton écosystème. À perdre ma liberté, je gaspille ta vie. Des bois et des forêts, mais maintenant c'est fini.
C'est la programmation de Romain Dubrac. M, logique est ton écho. M, bah. fils de chanteur, petit-fils de poète. Mmh. Voilà, alors, est-ce qu'on échappe à son destin?
Il y a une lignée parfois, comme ça, effectivement, de génération en génération, on aime bien...
Sur les enfants de comédiens, c'est quand même impressionnant. Hein,
ouais, mais bon. Après, des fois, c'est médecin, ingénieur, il y a quand même parfois des lignées comme ça, agriculteurs aussi. Hein.
Il y a des médecins à qui on dit, mais comment ça se fait, aucun de tes enfants n'est médecin, tu as raté quelque chose finalement.
Ouais, alors, c'est l'inverse.
Pression sur les parents.
Des fois.
Est-ce que, une fois, une directrice d'école m'a dit, tous ses enfants travaillent dans l'éducation nationale, et elle m'a dit cette phrase, moi, que je trouve étonnante, c'est bon signe quand les enfants veulent faire le même métier que leurs parents.
Ah, ça m'interpelle. J'ai pas d'avis du tout là, sur la question. Le même ou pas le même, c'est... Ben, effectivement, quand le parent adore son métier et est passionné, ça peut donner envie. En fait, on est toujours influencé quand même par les gens qu'on rencontre. Et quand la personne, alors que ce soit notre parent ou quelqu'un qu'on connaît, qui est proche, qui adore ce qu'il fait, ben, ça nous donne envie de suite. Donc c'est peut-être comme ça qu'on raccroche le wagon et on a envie. On est tiré par quelque chose, un moteur de passion, parce qu'on voit l'autre complètement
Exactement.
Passionné et qui adore ce qu'il fait.
33 1 84 22 71 71, on écoute le message posté par une voisine.
Bonjour 7 milliards de voisins, moi je suis Elodie, je vous appelle de Lomé. Quand j'étais enfant, je me rappelle que mon papa voulait que je travaille au niveau de la médecine, mais je rêvais d'être avocate. Mais étant dit que j'avais des difficultés en cours de route, je me suis dit, je vais faire le journalisme. Mais malgré cela, je n'ai même pas pu. Après, je me suis dirigée vers le secrétariat. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas fière de ce que je suis. Je voudrais faire mieux, mais je n'y arrive pas. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Elodie Delomé, bye bye.
Elodie Alomé, c'est terrible cette phrase, je ne suis pas fière de ce que je suis, alors qu'en fait, voilà, on a un témoignage typiquement de quelqu'un qui a dû subir une pression, une influence, et puis les principes de réalité également.
Oui, et en même temps, ce que j'entends, en fait, c'est qu'elle voulait faire avocate. Et ça aurait été intéressant, c'est intéressant qu'elle explore pourquoi elle voulait être avocate. Parce que avocate, ça, derrière un métier, en fait, ce qui est intéressant de savoir pourquoi. Qu'est-ce que je veux? Derrière un même métier, il y a plein de choses. Par hôtesse de l'air, ça peut être pour voyager, pour découvrir des cultures différentes, pour rencontrer des gens tous les jours, de s'éloigner de sa famille peut-être, le plus souvent. Ouais. Il y a plein de raisons.
Donc, sur un même les métier. Malentendus, finalement.
Et ça peut être intéressant d'explorer, parce qu'on peut le réconcilier avec ce qu'elle est maintenant, et ce qu'elle fait maintenant. C'est-à-dire qu'elle va être avocate. C'est pourquoi? Alors, c'est à elle de le savoir. C'est peut-être pour défendre des droits. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui veut protéger ou qui veut plus de justice, plus d'égalité. Donc, je ne sais pas quels sont les mots qui sont importants pour elle, mais peut-être que dans sa profession, elle peut recréer le lien avec apporter plus de justice, plus de droits, plus d'équité dans ce qu'elle fait maintenant. Et dans ces cas-là, elle nourrit ses valeurs via son métier. Et je pense que c'est parce qu'elle a le sentiment de ne pas être cohérente. De ce que j'entends, hein. Il faudrait explorer peut-être davantage, mais en cohérence avec ses valeurs. Mais quand elle se reconnecte à ça, elle pourrait être très très bien dans ce qu'elle fait, même si c'est pas la profession qu'elle avait en tête au départ.
Vous avez déçu vos parents par vos choix d'orientation, de métier pendant vos études. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Albert nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Albert. Pardon, Alfred. Alfred, bonjour Alfred.
Ah d'accord, bonjour.
Vous êtes le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Vous avez 27 ans.
Moi, j'ai déçu mon père. Bon, pas seulement mon père, c'est toute la famille. Mon père, il voulait que je devienne plombier comme lui ou que je fasse un métier dans le bâtiment.
Oui.
Et ma famille, mes oncles, mes grandes sœurs voulaient que je fasse des études supérieures, voilà.
Ah d'accord, donc dans la famille, en fait, il y avait un bloc, votre père et la famille en face, et vous au milieu.
Voilà, voilà.
Ah oui, pas simple, hein.
Mmh.
Ouais.
Et moi, je faisais des études scientifiques, j'étais au lycée, et j'ai un niveau terminal sans bac parce que j'ai même pas fait le bac, parce que j'ai laissé les études, et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, parce que c'était déjà ma passion, parce que j'avais déjà lu des livres, des articles sur des entrepreneurs, des biographies et tout. Et même quand j'étais petit, quand je disais je voulais être pilote, je me disais toujours, avec mon salaire de pilote, je vais lancer telle entreprise pour aider les gens, pour embaucher, pour créer de l'emploi.
Mais entrepreneur, c'était pas tellement éloigné de votre père qui travaille dans le bâtiment et qui est plombier, finalement. C'était pas irréconciliable, non?
Oui, c'est peut-être pas irréconciliable, mais juste qu'aujourd'hui, je me dis, à un moment, je dois créer une entreprise dans le bâtiment, au moins pour faire plaisir à papa.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes exactement? Alors, en termes d'études, de métier, de travail, et puis dans les relations avec votre papa?
Donc, j'ai dû quitter la maison très tôt déjà. Je n'avais pas, même pas encore la vingtaine, parce qu'avec papa, la relation s'en allait plus bien.
Oui.
Il me criait dessus, il ne comprenait pas mon choix, pourquoi je n'allais plus en classe. C'était pareil avec mes grandes sœurs. Donc j'ai dû quitter la maison. J'ai suivi quelques formations avec des incubateurs qui sont installés ici à Libreville, notamment du Gabon. Je suis devenu aussi un peu plus autodidacte, donc je me suis formé par moi-même sur des sujets qui m'intéressaient.
Oui.
Donc en 2016, j'ai gagné un concours, le concours du Gabon X-Time.
Oui.
J'étais parmi les trois lauréats, ce qui fait que la famille maintenant a commencé à s'intéresser. Car, bah, tiens, finalement, ce qu'il fait, c'est pas si mal que ça. Voilà, il a une reconnaissance nationale.
Start-upper.
Ouais.
Voilà, start-upper. Et aujourd'hui, je fais dans du e-commerce. Voilà. Mon père, il comprend pas ce que c'est. Il connaît même pas Internet. Je vais le voir de temps en temps. La relation, c'est pas trop, c'est pas trop le bonheur.
Mais il va changer. Il va changer, votre papa, parce que il y a plein de gens qui connaissent pas Internet et qui savent se servir d'un smartphone. Hein, donc, forcément, votre papa, il va changer de regard.
Oui, j'espère.
Bon, en tout cas, bravo, parce que c'est un sacré parcours, Alfred.
Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a des jours ensoleillés, il y a des jours orageux, mais je suis heureux parce que j'ai vu mes rêves, j'ai vu ma passion, j'ai fait ce qui me plaît, et pour moi, c'est ça le plus important. Quoi.
Ouais, c'est génial, et c'est pour ça que vous avez réussi d'ailleurs aussi, Isabelle Servant.
Ouais, je crois que la question qui se pose derrière ces témoignages, c'est réussir sa vie ou réussir dans la vie. Voilà. Et là, j'entends, je veux réussir ma vie telle que je l'entends et être capitaine de mon âme, capitaine de mon âme, maître de mon destin, comme le disait Nelson Mandela. Et en fait, ce qui est beau dans ce témoignage, c'est que bon, il a déjà osé braver pour croire en, il a cru en lui, mais surtout, il a fait toutes les démarches. Il parle beaucoup d'être autodidacte.
C'est ça, il s'est donné les moyens.
Il s'est vraiment donné les moyens. Et je crois qu'effectivement, quand on a un rêve comme ça, il est important d'explorer toutes les pistes possibles, de se former, même en parallèle à l'obligation, pour se donner les moyens de réussir. Et peut-être ainsi convaincre et rassurer les parents. Les parents ont besoin d'être rassurés. Et donc, si on voit qu'on fait plein de choses et qu'on obtient, comme lui, une première notoriété, alors là, ok, il y a l'aval des parents. Pas toujours, mais ça aide.
Fadoul nous appelle de Marois, au Cameroun. Bonjour Fadoul.
Oui, bonjour, c'est le meilleur de voisin.
Vous êtes le bienvenu. Alors, vous êtes tchadien, vous étudiez au Cameroun, et pour une bonne raison, c'est qu'avec votre papa au Tchad, ça ne se passait pas bien du tout. Hein.
Oui, mon papa, lui, il est un commerçant.
Ouais.
Et moi, je suis le seul garçon dans la famille.
Ouais.
Il a des entreprises qu'il fait embaucher les membres de la famille.
Oui.
Mais il gère mal l'entreprise. Mm-hmm. Du coup, quand j'ai obtenu mon bac, il m'avait proposé de faire l'économie ou la gestion pour devenir un bon gestionnaire.
Oui.
Et comme sous-entendu, travailler aussi dans son entreprise.
Eh oui, forcément. Mais s'il emploie des membres de la famille et que ça se passe mal, il se dit, mon fils va redresser tout ça, j'aurai confiance en lui. Sauf que vous lui avez dit non parce que vous vouliez devenir diplomate ou militaire.
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors, grosse déception hein, chez votre papa.
Oui.
Alors, du coup, vous êtes parti, c'est ça? Vous avez décidé de quitter le Tchad, de partir étudier au Cameroun. Est-ce qu'il vous aide? Il paye vos études ou pas au Cameroun?
Il paye mes études, mais pas comme il l'avait promis.
Ah. Parce que vous l'avez déçu, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il me finance mes moyens.
Et aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes, Fadoul? Vous vous dites, je parviendrai à mon but, à devenir diplomate ou militaire, ou vous pensez que vous allez finir par rentrer au bercail et dans le projet professionnel de votre père?
Non. Actuellement, mon souhait est de devenir un diplomate. C'est pourquoi je suis agi de faire l'histoire.
Merci Fadoul de nous avoir appelé. Christina nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Christina.
Bonjour.
33 ans, médecin et maman de trois enfants. Alors quel est le problème?
Bon, ce n'est pas un problème en tant que tel, c'est juste que je voulais faire un témoignage. Je suis médecin et médecin spécialiste, donc c'est quelque chose qui est quand même assez bien vu ici au Cameroun.
Oui.
Et quand j'ai fini ma médecine spécialisée, ma maman et mes parents, ils m'ont dit « Oui, tu as fini, j'étais en France, il faut rentrer au Cameroun, il faut te marier, il faut faire des enfants. Une femme, c'est bien d'avoir une bonne profession, mais aussi bien d'avoir une famille. » Mais pourtant, je sentais que j'avais encore envie de faire autre chose, genre dans la recherche, aller aux États-Unis, au Canada, faire autre chose, quoi. Mais je suis rentrée, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et je travaille, mais je sens qu'il me manque quelque chose.
Oui. Vous avez des regrets, on ne peut pas parler de regrets parce que vous n'avez que 33 ans, donc vous allez réinventer votre vie.
Non, pas de regrets, tout à fait. Non seulement pour moi cette fois-là, mais aussi pour mes enfants, parce que j'ai deux filles.
Ouais.
Et je me dis, pour l'avenir, ce serait bien qu'elles aient ce témoignage vivant que d'avoir une maman qui a accompli son rêve.
Mais merci de nous avoir appelé, Christina. Ce qui est vraiment, ce qui donne de l'espoir quand même aujourd'hui, c'est d'abord Isabelle Servent. Beaucoup de nos auditeurs ont bien conscience que les portes ne sont pas fermées et qu'on peut se réinventer encore aujourd'hui à tout âge d'une certaine manière.
Clairement, et je pense que même si on est allé sur une voie qui ne nous convenait pas, rien n'empêche, pour assurer la sécurité et rassurer, rien n'empêche en parallèle, petit à petit, même si ça demande des efforts, mais vivre ses rêves, ça demande quand même des efforts et de l'investissement, et ben de se former en parallèle. Maintenant, on a Internet, on peut mettre en place plein de petites choses pour se rapprocher de ce qui est important, construire son projet, alors si nécessaire, en parallèle à ce qu'on fait, jusqu'à ce que peut-être on puisse vivre et explorer ce rêve à plein temps, mais en tout cas voilà, faire une sorte de on bascule petit à petit, on les construit en parallèle jusqu'à ce que le rêve puisse émerger pleinement.
On donne la parole à un dernier auditeur avant de se quitter, Bertrand, 28 ans, né au Togo. D'où nous appelez-vous, Bertrand?
Oui, je vous appelle de la région parisienne.
Oui, il nous reste une minute, on vous écoute, Bertrand.
D'accord, alors mes choix d'études et de carrière ont toujours systématiquement et en fait été influencé par mes parents, par des proches. Donc j'ai fait, après ma classe de 3e, ma mère voulait que je sois médecin, alors que j'étais attirée par la littérature. Donc j'ai fait une série scientifique et après mon bac, je désirais faire informatique puisque j'ai appris à faire du codage de manière quand même didactique. Sauf que
On a perdu.
Incité fortement, mais on m'a fortement incité à faire du droit. Donc j'ai fait des études de droit sans avoir fait ce choix. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte que j'aimais bien la matière. Et donc je suis venu en France continuer mes études et j'ai aujourd'hui un doctorat en droit.
Voilà, vous avez enchaîné les diplômes, hein, école de commerce, docteur en droit. Mais alors finalement, vous êtes très brillant, donc du coup toujours insatisfait. Comment vous qualifieriez en un mot votre situation aujourd'hui, Bertrand?
Alors, ma situation professionnelle, j'ai un profil qui est assez demandé sur le marché de l'emploi. En revanche, je ne suis pas épanouie dans mes différentes activités professionnelles. Donc, il y a un processus de reconversion que j'ai débuté, sans être sûr que cela m'amènera justement à m'épanouir. Hein, donc,
Merci de nous avoir appelé, Bertrand. On a reçu un nombre d'appels, de témoignages absolument incommensurable. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à tous les jeunes qui nous écoutent, qui subissent la pression de la société, la pression des parents, la pression d'être épanouis en même temps? Enfin, comment on trouve sa voie d'une certaine manière?
Alors, je voulais juste rebondir sur les deux derniers témoignages. C'est le fait que les parents se sont parfois pas autorisés eux-mêmes à vivre leur rêve. Donc il y a une sorte de transmission ou reproduction de ce qu'eux-mêmes ont vécu. La sécurité avant tout, c'est ce que leur ont dit leurs propres parents. Je dirais deux choses. Soit on peut construire son projet de cœur en parallèle, en mettant en place plein de petites actions et voir aussi quels sont nos points forts, notre singularité. Si j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que je ferais pour contribuer au monde?
Ça, c'est une bonne manière de poser des questions. En tout cas, on peut vous retrouver, Isabelle Servent, dans votre livre « Les 20 questions à te poser pour trouver, prendre ta place professionnellement ». Merci à vous.